pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par Linky Pete, la première phrase d'un roman. J'ai choisi la première phrase de La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Personne n'aurait cru dans les dernières années du 19e siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles, que tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Ah, sacrée phrase, c'est le point de départ de quasiment d'ailleurs tous les romans de science-fiction qui s'emparent de l'idée des extraterrestres. Ce n'est pas pour rien qu'H.G. Wells est le père du genre. La Guerre des Mondes, donc. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres avec Francis Lalanne tout à l'heure. Alors pour une fois, je ne suis pas allé dans sa bibliothèque, mais dans une librairie. Ça ne l'a pas empêché d'être hyper poétique, comme on s'y attendait un grand moment. Nous vous donnerons de bonnes idées de lecture avec Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre, et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Delande. Mais d'abord, c'est l'invité, La Voix est libre. C'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
On le connaît pour Les Aimants, Avant, Pendant, Après, ou La Mélancolie des fast-foods, ou La Recherche de la Couleur. Il a le sens du titre. On lui donne aussi Un problème avec la beauté, la biographie d'Alain Delon. Et il est de retour, plus mélancolique et amoureux que jamais. Bonjour Jean-Marc Parisi.
Bonjour.
Votre dernier roman s'appelle L'histoire de Sam ou l'avenir d'une émotion chez Flammarion. Ça commence mal puisque le héros, Sam, 14 ans, ne s'appelle pas vraiment Sam. Il s'appelle Pierre en réalité.
Il s'appelle Pierre en réalité. Ouais.
Mais comme il y a un autre Pierre dans la bande, on l'appelle Sam. Mais
on l'appelle Sam parce que c'est l'histoire de Sam en fait. L'histoire de Sam.
Et pourquoi vous vous compliquez la vie en tant qu'écrivain avec un héros, narrateur qui n'a pas le bon prénom?
Alors ça, c'est la bonne question, parce que j'aurais pu trouver un autre prénom tout de suite.
Voilà, vous l'appelez Sam et c'est terminé.
Sam, c'était pour donner une petite consonance, comment dirais-je, étrangère, exotique, presque américaine, à un personnage finalement très, très français, en fait, dans sa constitution. Et dans son habitation aussi, puisqu'il habite une petite ville de France, comme je dis. Voilà.
On va rentrer dans le cœur du roman, mais il me vient une question, du coup. Il y a des Eric, il y a des Pierre, donc Sam. Est-ce que c'est compliqué de choisir des prénoms dans un roman? Est-ce que vous vous dites...
Oui, c'est compliqué. Alors ça aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire que les prénoms ont des âges. Et les prénoms sont d'une époque.
Alors, et d'une région éventuellement.
Ouais, oui, effectivement, ou deux régions. Donc, les prénoms, là, sont d'époque. Et l'époque sont des gens qui ont quand même 14 ans, voilà, dans les années 90, on va dire. Hein. Donc, il y a encore des Eric, il y a encore des Pierre, il y a encore des gens comme ça, enfin des prénoms comme ça.
Ah, vous le situez dans les années 90.
Ah ben oui, bon, mais c'est dans les années 90, parce que je suis obligé de vous reprendre, mon cher, c'est que ça n'est pas du tout un livre autobiographique.
Ah ben j'ai pas dit ça.
C'est-à-dire que la mélancolie et l'amour dont vous m'habillez, en fait, en quelque sorte, c'est celle de Sam, qui est un garçon dans le livre qui a moins de 40 ans, qui est pilote de ligne et qui est matheux. Autant vous dire que c'est tout mon contraire, en fait, en quelque sorte.
On va y revenir à cette question-là, justement. Mais alors donc, pour l'instant, c'est la fin de l'année. Et alors, vous avez un certain talent pour décrire le mois de juin, le prélude des vacances d'été. C'est une question de lumière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui rend cette période si sublime?
J'adore ça.
Particulièrement à l'âge du héros.
Il y a deux choses. D'abord parce que c'est le début de l'été. C'est-à-dire cette lumière incomparable du début de l'été. Et surtout, dans le cadre de l'histoire de Sam. C'est cette parenthèse magique qui existe et qui coïncide avec le début de l'été entre la fin des conseils de classe et le moment et le début des vacances. Là, il y a un sas, en fait, ce que j'appelle un sas enchanté, une parenthèse enchantée d'une quinzaine de jours où, en fin de compte, pour les collégiens que sont Sam et ses amis, c'est la liberté totale. Ils savent qu'ils passent en classe supérieure. Et en même temps, les vacances sont pas encore... Ce sont des pré-vacances. Et pour Sam, c'est les plus belles des vacances. Il adore cette petite ville où la lumière tombe sur les habitations, qui est entre ville et champs, voilà, où il y a un château. Voilà, c'est un... Il y a une dimension de conte dans cette ville.
Un village qui s'appelle Froncy. Mais c'est d'abord une histoire d'amour quand même, puisque donc dans cette période magique et sublime du mois de juin, il fait évidemment à 14 ans un foot avec ses copains. Le ballon part derrière le mur, il faut un volontaire pour aller le chercher. C'est Sam qui doit s'y coller. Et qu'est-ce qui se passe ? Il rencontre
la beauté vivante. Il rencontre la beauté vivante à 14 ans, elle a aussi 14 ans. Et là, je traite d'un thème tout à fait universel. C'est-à-dire qu'on a tous, eu à un moment ou à un autre, l'occasion, on l'a fait d'ailleurs, de rencontrer quelqu'un qui vous dépasse. Dans lequel, bizarrement, on se reconnaît. C'est ça, la rencontre amoureuse de Sam. C'est-à-dire que quand il rencontre Derdre, elle est magnifique. Il n'a jamais vu une fille aussi jolie, et d'après ce qu'elle raconte, aussi intelligente, aussi spirituelle. Et pourtant, il a aussi l'impression de la connaître depuis très longtemps. C'est-à-dire que il y a un accord qui se fait. Et j'adore ça parce que pourquoi j'ai aimé ce livre pour ça, c'est que c'est vrai. Là, je n'ai rien inventé. On a toujours intérêt à rencontrer, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui vous dépasse. Et Derdre dépasse Sam, d'une certaine façon.
Et Derdre est galloise, et elle est galloise, lui donne rendez-vous et elle va... pour le soir même, pour une balade dans le parc du château.
Exactement. C'est une rencontre qui dure quelques heures. Alors, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que Sam ensuite part en vacances, donc il a.
Oui, parce qu'il habite à Froncy, qui est un village de la région parisienne.
Ouais, la région parisienne.
Et le drame, c'est que le lendemain de sa rencontre avec
Derdre, il part en Dordogne chez ses grands-parents.
Voilà, grands-parents adorés. Mais là, c'est un déchirement. Et c'est une vraie souffrance. Vous la décrivez très bien dans le livre. Une souffrance mêlée d'un sentiment d'injustice. Et c'est terrifiant à cet âge-là. À quel point on ne choisit pas son destin?
Non, c'est ça. C'est très bien lu, ça. Parce que c'est toute l'histoire de Sam. C'est-à-dire que finalement, il aurait eu 18 ans, il serait resté. Il faisait ce qu'il voulait. Là, il est arraché. Il est arraché. C'est-à-dire que c'est une double violence. Il a rencontré la beauté. Et en fait, cette beauté lui est arrachée. Il en est privé. Je parle d'injustice. Hein. Pour lui, c'est véritablement une injustice. Et donc, en fait, il va partir. Il part chez ses grands-parents en Dordogne, et puis il va se passer ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que il va pas.
Il part pas au bagne en même temps.
Non,
évidemment.
Non, mais c'est pas la question.
Mais il peut même pas avouer à ses parents la vraie raison.
Non, c'est impossible. Parce que vous savez aussi, je pense qu'à 14 ans, on est doué d'une telle pudeur qu'on ne parle pas de ses amours aux parents. Ça les regarde pas d'ailleurs. Hein. Et puis d'autre part, Derdre et ça c'est intéressant pour un écrivain, elle est littéralement indescriptible. C'est-à-dire que tout ce que Sam pourrait en dire serait toujours en dessous de la vérité. Alors, ce serait une façon de la trahir. C'est pour ça qu'il n'en parle pas.
Bon, mais en parlant de souffrance, il en est qu'au début, parce qu'elle lui a donné son adresse. Elle lui a dit « Écris-moi ». Et donc, il s'exécute. 5 lettres en quelques jours. Et pas de réponse.
Et pas de réponse.
Et puis finalement, une petite réponsette avec des mots basiques. Elle ne parle même pas d'amour, elle ne parle même pas des douves. Ouais. Ça aussi, c'est terrible. À cet âge-là en particulier.
Alors, c'est terrible, mais c'est vrai que c'est en même temps la grâce des 14 ans. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est terrible, mais vous aurez remarqué que finalement, il s'en remet. Il a été dévasté, mais à 14 ans, on s'en remet vite aussi, d'une certaine manière. Ou on croit s'en remettre vite. Et c'est ce qui se passe pour Sam. C'est-à-dire que finalement, après, la vie continue. Il revient au collège, ensuite après il est au lycée, après il est en prépa, après il est pilote, etc. Et en fait, la vie continue. Voilà, l'intermède est passé, en fait. Il croit que l'intermède est passé.
Mais j'aimerais bien qu'on reste sur cette enfance, enfin cette adolescence, parce que ce n'est pas la première fois que vous décrivez cet âge-là. Les parties de foot, les tours de vélo, les premiers émois, ça vous savez très très bien le faire. Et bon, c'est pas vous faire injure de vous dire qu'on n'est pas de la même génération, pas tout à fait, quoi.
Non.
Et pourtant, je reconnais des épisodes de ma propre adolescence. Ouais. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que vous documentez ? Parce que vous me dites que c'est les années 90, donc c'est ma génération.
Ouais, c'est
moi, je pensais que c'était la vôtre, parce que je vous lisais vous.
Non, mais parce qu'il y a des éléments constants. Je veux dire, le ballon, qu'est-ce qu'il y avait ? D'abord, je vais vous dire, en plus, une jeunesse dans les années 90, elle n'est pas si différente d'une jeunesse dans les années 80 ou dans les années 70. Ça commence véritablement à changer dans les années 2000. Mais par exemple, là, quand on commence le livre, il n'y a pas de portable encore. Après, il vient, mais il n'y a pas de téléphone portable, par exemple. Mmh. Voilà. Les années 90, ou en tout cas au début, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a des éléments invariants. Le foot, quoi qu'il arrive, et encore plus maintenant qu'avant, presque. Le foot, ça fait partie intégrante de la vie d'un gamin de 14 ans. Voilà. Ce qui change peut-être, c'est le Francy de l'époque. C'est-à-dire que je l'ai véritablement... J'ai décrit cette petite ville comme presque inactuel, en fait, d'une certaine façon.
Eh bien, on s'arrête un peu là, Jean-Marc, on s'assoit sur ce banc, par exemple, et on continue la visite de Francy avec Sam dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec Jean-Marc Parisi pour son nouveau roman « L'histoire de Sam ou l'avenir d'une émotion » chez Flammarion. Nous suivons donc Sam, 14 ans. Il est tombé amoureux la veille de son départ en vacances. Il écrit à Derdre plusieurs lettres, mais il n'obtient qu'une petite réponse tiédasse. Francy, donc, c'est une ville fictive. Jean-Marc Parisi, c'est une ville de la fameuse France périphérique, d'où je viens et d'où vous venez. La France qui n'est ni Paris, ni les grandes villes, ni tout à fait la campagne, sans problème particulier, mais un peu bercée d'ennui quand même, surtout donc... pour un ado, et c'est un décor parfait pour un roman, finalement.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il y a quelque chose qui vient briser l'ennui dans la fiction, forcément.
Oui, c'est vrai, mais... Alors, ouais, c'est vrai.
Et la monotonie.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Derdre arrive là-dedans comme une comète, en fait, en quelque sorte. Elle illumine le ciel de Francy. Ça, c'est clair. Mais... en même temps, ce sont des enfants qui n'ont pas de problème. Je veux dire, c'est la France périphérique. Je veux dire, c'est tous des enfants qui vivent bien, qui n'ont pas de, qui sont heureux.
Ça, il n'y a pas de problème particulier.
Non, il n'y a pas de problème.
Elle arrive d'Erdre nulle part, en fait. Et elle n'a aucune raison d'être là, d'une certaine manière.
Non, elle est en classe de... Elle est en classe de langue, en fait. Elle vient avec sa classe pour travailler le français. Comme.
Mais c'est encore plus fou qu'elle arrive à Francy plutôt que s'il habitait à Paris ou à Nantes.
Absolument,
ou à Lyon.
Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça s'appelle du roman.
Voilà, c'est ça ce qui est beau. Alors, Pierre grandit, il devient pilote de ligne. Il a oublié Derdre, mais pas complètement, puisqu'elle est là tout le temps dans un coin de sa tête. C'est ça ce que vous appelez l'avenir d'une émotion.
Oui, c'est ça ce que j'appelle l'avenir d'une émotion. Il y a une phrase de Char qui est extraordinaire. D'ailleurs, la phrase de Char résume complètement le bouquin.
Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir.
C'est exactement ce que va faire Sam, d'ailleurs, d'une certaine façon. Parce que, qu'est-ce qui reste de Derdre et quelle est la présence de Derdre des années plus tard, en fait? Et je dis dans le livre que Sam a métabolisé Derdre, en quelque sorte. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, elle est en lui. Voilà. C'est pas pour rien que le personnage du livre est pilote de ligne. Sam n'est jamais redescendu. Sam n'a jamais trouvé de place sur Terre. Sam est toujours dans le ciel, en fait, d'une certaine façon. Il plane. Il est en apesanteur depuis sa rencontre avec Derdre. Et à un certain moment, on ne va pas tout dire, mais à la faveur de certains événements, je veux dire, cette pensée de Derdre va se faire de plus en plus prégnante, de plus en plus forte. Mais effectivement... Comme il le dit à un moment, vous savez, c'est comme une ritournelle qu'on a dans la tête depuis l'adolescence et qu'on n'a pas besoin, en fait. C'est comme ces chansons qu'on fredonnait à 14 ans et qu'on se rappelle à 40, 50 ou 60 ans. Eh bien, lui, finalement, l'adresse de Derdre, il ne la connaît pas. Je veux dire, il ne l'a jamais apprise, mais il la connaît par cœur. Il y a des trucs comme ça qu'on n'a pas besoin d'apprendre, qu'on métabolise, qu'on imprime en soi. Et finalement, d'une certaine façon, c'est le livre aussi de quelqu'un qui est gouverné par une présence. Sam, sans l'avoir jamais revu, pour l'instant, est gouverné par la présence de Derdre, alors qu'il a vu 3 heures dans sa vie et dont il ne se souvient même plus du visage. Hein.
Mais ce qui reste, c'est Marcel Proust qui en parle le mieux et qui est cité dans le livre.
Bien sûr.
Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
Ça, c'est formidable.
C'est parti de là, ce livre ?
C'est parti de là, oui. On peut... oui. Enfin, disons, en tout cas, ça illustre bien le livre. Et c'est que Proust est important dans le livre parce que Sam va le découvrir. Oui. Il me plaisait énormément d'avoir affaire à un personnage qui était matheux, qui n'avait jamais lu un livre. Parce qu'il n'y a pas que les littéraires, ce qu'on appelle les littéraires, qui éprouvent des émotions. En fait, les émotions, elles traversent tout le monde. Et Sam, le truc assez drôle, c'est que, en fait, au départ, c'est un matheux. Il n'a jamais lu de livre. Il n'aime pas la littérature. Et en fin de compte, il va s'avouer presque l'écrivain de sa vie, en fait, en quelque sorte. Et il va, d'ailleurs, je me suis amusé à ça, je me suis amusé aussi à raconter l'histoire de quelqu'un qui découvre la littérature.
Je vous jure que c'est vrai, c'était encore ma prochaine question, puisqu'il découvre la lecture grâce à un copain bouquiniste qui lui fait lire les plus grands chefs-d'œuvre et qui ouvre un monde nouveau à Sam, celui de la fiction. Et voilà ce qui se passe. Chaque livre avait sa propre voix, dit-il. Des voix comme je n'en avais jamais entendu, ultrasoniques, rythmées, souveraines, sublimes, des voix auxquelles il était impossible de se dérober. Elles m'intimaient de les écouter. C'est ça le pouvoir de la lecture.
Pour Sam, en tout cas, c'est... Pour Sam, c'est ça. Je veux dire, il a plus de 30 ans quand il commence véritablement à ouvrir un livre. Alors, il a entendu parler de Proust, etc. Mais ça le fait marrer, c'est pas ce que c'est, etc. Et puis, il ouvre une page au hasard. Il revient voir un match, parce qu'en fait, c'est un football en même temps. Il revient voir un match à la télé, et puis il repart, et il va rouvrir une autre page de Proust. Il dit, mais attends, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est exactement, ça me fait penser à quelque chose, c'est exactement la même chose que pour Derle. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me dépasse dans Proust, et il y a aussi quelque chose que je reconnais. Vous voyez ce que je veux dire? Derle, c'est la même chose. Elle le dépasse, la beauté de Derle le dépasse, et d'une certaine façon... En même temps, elle est pour lui, il la reconnaît, voilà. Ça ne l'étonne pas tant que ça. Et en fait, quand il découvre Proust, c'est la même chose. Mais d'autres auteurs, Nerval aussi, mais finalement, ces gens-là, finalement, écrivent ce que je ressens. Donc ça m'intéresse parce que je vais approfondir encore.
Mais qu'est-ce que ça change pour lui? Je ne vais pas vous demander à quoi sert la littérature, évidemment. Il n'y a pas de réponse, mais qu'est-ce que ça change pour Sam?
Ça change une chose.
Bien aussi sans les romans, hein.
Ça change une chose assez essentielle, c'est que vous aurez remarqué que finalement, c'est quelqu'un d'assez seul, par son métier d'abord. Il est souvent dans l'air, il voyage beaucoup, il ne se pose pas beaucoup, etc. Et puis, il est seul, il ne s'est pas marié, etc. Et les livres, ce sont des fabuleux amis, en fait, en quelque sorte. Hein. Là, je reviens à Proust aussi, hein, je veux dire, qui définissait la littérature, les écrivains, comme une amitié, en fait, en quelque sorte, pour le lecteur. Hein. Voilà, moi, mes meilleurs amis, c'est les livres.
Hein. C'était quand et comment votre rencontre avec la littérature et avec la lecture, Jean-Marc Parisi?
C'est des professeurs. Et ça, gloire à eux. C'est-à-dire que j'ai eu... Alors, bien sûr, je disais en quatrième ou en troisième, mais j'ai lu en seconde. J'ai eu en seconde des professeurs fantastiques qui m'ont fait lire Pavès, des gens qui m'ont fait lire Drieux, des gens qui m'ont fait lire... Barbet d'Orivy, des gens qui m'ont fait lire, des gens comme ça. Et donc, c'est les profs, en fait. Voilà, c'est pas ma famille, c'est les professeurs. Professeurs de lycée.
Pour vous, ça a tout changé, évidemment.
Bah là, encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que ça m'a dépassé et en même temps, je me suis reconnu dedans, quoi. Donc, si vous voulez, à partir de là, je me suis dit, ça va être bien, quoi.
Il faut être sacrément prétentieux pour essayer d'égaler quelque chose qui nous dépasse, puisque vous êtes devenu écrivain.
Oui, alors on peut le voir du côté de la prétention, mais on peut le voir aussi du côté de l'humilité. C'est-à-dire que, vous savez, la formulation, l'essai de formulation vous rend humble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est véritablement un travail. Donc à partir de là, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité.
C'est-à-dire qu'on se rend vite compte que ça va être plus dur que prévu?
Je vais vous dire, un, on se rend vite compte de cela, et deux, on se rend vite compte que de toute façon, on ne va jamais absolument arriver à dire absolument ce qu'on veut. Voilà. Donc il faut s'y reprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, approfondir, et c'est jamais assez, en fait, en quelque sorte.
L'histoire de Sam ou l'avenir d'une émotion, on ne raconte évidemment pas la fin, mais je vous la conseille vraiment, c'est assez terrible. C'est donc votre nouveau roman chez Flammarion. Merci beaucoup, Jean-Marc Parisi.
Merci. Merci Nicolas.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres, nous allons parler d'un roman culte, extension du domaine de la lutte, le roman qui a révélé Michel Houellebecq en 1994, et nous lirons les premières pages. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Aujourd'hui, j'ai choisi « Extension du domaine de la lutte » de Michel Houellebecq. C'est le roman qu'il a révélé au grand public en 1994 et c'est aussi son meilleur, selon moi. C'est l'histoire d'un informaticien. C'est le narrateur d'ailleurs, il a une trentaine d'années, il se traîne un peu dans la vie. La semaine, il travaille. Le week-end, il reste seul chez lui à déprimer tranquillement. Sa vie est morne et il le sait. Fumer des cigarettes, c'est devenu la seule part de véritable liberté dans mon existence. La seule action à laquelle j'adhère pleinement de tout mon être, mon seul projet. Bonne ambiance. Vous allez me dire pourquoi lire un truc comme ça, franchement. Eh bien, c'est qu'en suivant le narrateur, on observe avec lui la comédie humaine, la mascarade sociale du quotidien, et on la démonte et on la dévoile avec lui. Et vraiment, vraiment, quand on a lu ce livre, on ne voit pas le monde de la même façon, ou plutôt on le voit mieux, plus lucidement, on est moins dupe. Tout ça dans un style très libre, très cru. Je vous propose d'écouter les toutes premières pages lues par Philippe Dussault.
Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez une collègue de travail. On était une bonne trentaine, rien que des cadres moyens, j'ai de 25 à 40 ans. À un moment donné, il y a une connasse qui a commencé à se déshabiller. Elle a ôté son t-shirt, puis son soutien-gorge, puis sa jupe, tout ça en faisant des mines incroyables. Elle a encore tournoyé en petite culotte pendant quelques secondes et puis elle a commencé à se ressaper, ne voyant plus quoi faire d'autre. D'ailleurs, c'est une fille qui ne couche avec personne, ce qui souligne bien l'absurdité de son comportement. Après mon quatrième verre de vodka, j'ai commencé à me sentir assez mal. Et j'ai dû aller m'étendre sur un tas de coussins derrière le canapé. Peu après, deux filles sont venues s'asseoir sur ce même canapé. Ce sont deux filles pas belles du tout, les deux boudins du service en fait. Elles vont manger ensemble. Et elles lisent des bouquins sur le développement du langage chez l'enfant, tout ce genre de trucs. Aussitôt, elles se sont mises à commenter les nouvelles du jour, à savoir qu'une fille du service était venue au boulot avec une mini-jupe vachement mini, au ras des fesses. Et qu'est-ce qu'elles en pensaient? Elles trouvaient ça très bien. Leur silhouette se détachait en ombre chinoise, bizarrement agrandie sur le mur au-dessus de moi. Leur voix me paraissait venir de très haut, un peu comme le Saint-Esprit. En fait, je n'allais pas bien du tout, c'est clair. Pendant 15 minutes, elles ont continué à aligner des platitudes. Et qu'elles avaient bien le droit de s'habiller comme elles voulaient, et que ça n'avait rien à voir avec le désir de séduire les mecs, et que c'était juste pour se sentir bien dans sa peau, pour se plaire à elle-même, etc. Les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. À un moment donné, j'ai même prononcé ces mots à voix haute. Les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. Mais elles ne m'ont pas entendu. Moi aussi, j'avais bien remarqué cette fille. Difficile de ne pas la voir.
C'était donc le début d'Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, admirablement lu par le comédien Philippe Dussault. Et je vous conseille la ligne d'après et les suivantes. La semaine prochaine, c'est vous qui me direz quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez tout le temps. Écrivez-nous, il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons toutes vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque de Francis Lalanne. Il a plus d'un poème dans son sac.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Nous partons visiter la bibliothèque de Francis Lalanne. Pour ses 40 ans de carrière, il sort un double CD best-of. C'était l'occasion. Je ne le connaissais pas, mais j'avais déjà entendu parler de poésie et j'avais envie de visiter sa bibliothèque. Mais il est en transit en ce moment. Nous sommes donc installés dans la librairie, dans la grande librairie Gibert, boulevard Saint-Michel à Paris. Et il y a retrouvé les livres qu'il aime. Bonjour Francis Lalanne.
Bonjour.
Merci beaucoup. Alors, j'explique aux auditeurs, je vous ai croisé à Europe 1, je me suis dit, la bibliothèque de Francis Lalanne, j'ai envie de voir ça. Vous m'avez dit, oui, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, d'abord parce que vous êtes à Bruxelles, et puis, bon, vous allez nous expliquer, mais votre bibliothèque est un peu éclatée. Et donc, vous m'avez donné rendez-vous à Paris, boulevard Saint-Michel, dans la grande librairie Gibert, mythique librairie,
oui,
qui est fabuleuse parce qu'il y a 5 ou 6 étages et donc il y a tout. Et donc on va se balader là-dedans et comme ça on trouvera forcément les livres qui sont dans votre bibliothèque normalement. Mais qu'est-ce qui se passe avec votre bibliothèque?
Alors en fait je suis à Bruxelles en ce moment parce que je tourne, je suis en tournée en Belgique, j'ai une tournée de 120 dates en Belgique. Donc on est à Bruxelles en ce moment mais on va aller aussi dans la Belgique profonde. On va aller à Profondeville. Vous connaissiez Profondeville?
Pas du tout, mais j'adore ce nom.
Oui, c'est un nom de ville belge dans laquelle je vais faire 15 représentations. Vous voyez? Bon, bref. Et en fait, ma bibliothèque, n'ayant plus d'adresse fixe, j'ai finalement mis tous mes livres dans des cartons chez un ami, en attendant de pouvoir un jour peut-être ressortir ces livres si je décidais de redevenir sédentaire. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Je reste pour l'instant profondément nomade. Et donc, voilà, ma bibliothèque est dans ma tête. Ma bibliothèque est dans ma tête.
Comment ça se passe quand vous avez envie de lire un poème ou un roman que vous avez laissé dans vos cartons ?
Je vais le chercher dans ma tête. Ma bibliothèque, il n'y avait pas tellement de livres. Hein. Il y avait quoi, 200, 300 livres. Mais je pense que je les ai tous lus tant de fois que je les connais par cœur, en fait. Je suis un petit peu comme, vous avez vu ce film de Truffaut, où la mémoire des livres se transmet de génération en génération, du père au fils dans la forêt, puisque dans cette société-là, on persécute ceux qui veulent conserver la mémoire des livres.
C'est Fahrenheit 451, qui est le roman de Ray Bradbury, qui a été adapté par Truffaut,
voilà.
Effectivement, où les pompiers sont chargés de brûler tous les livres, voilà. Et de débusquer tous les livres pour les brûler, c'est terrible.
Et on se transmet la mémoire comme ça. Et moi, j'ai la mémoire de mes livres et je pourrais être un des personnages de ce roman. Je pourrais aujourd'hui oralement transporter la mémoire de mes livres et la transmettre à quelqu'un.
Comme ça, dans votre tête, là, si vous vous baladez dans les rayonnages, est-ce que vous pouvez me faire un panorama ?
Comme ça, brut pour point.
Oui, 5 ou 6 livres. Quoi.
Il y a beaucoup de poésie et des traités de seconde rhétorique.
Des traités de ?
De seconde rhétorique, c'est-à-dire tous des ouvrages traitant de la forme fixe et semi-fixe en poésie. Voilà, donc l'art de dicter, par exemple, de Stage des Champs, ces livres-là. Et ce sont des traités de poésie, parce que je suis quelqu'un qui est passionné par la forme poétique. Et j'ai moi-même publié aux éditions Les Belles Lettres plusieurs ouvrages dans une collection que je dirige et qui s'appelle D'accord. Architecture du Verbe. Et donc qui propose des anthologies de poésie formelle, mais à la fois historique et aussi technique.
Vous êtes le genre qui doit relire et aller chercher le livre pour relire un poème ou vous les avez dans la tête, vous connaissez beaucoup de poèmes par cœur et est-ce que vous en connaissez un en particulier que vous pourriez nous dire là maintenant si
alors,
c'est le cas
oui, par exemple, mon livre de chevet qui est par exemple La chanson des gueux de Jean Richepin qui est un de mes livres de chevet. Vous voulez que je vous en dise quelques vers ?
Bien, oui.
Alors, c'est un poème qui s'appelle Épitaphe pour n'importe qui. On ne sait pas comment cet homme prit naissance et comment il mourut. On ne l'a pas connu. Il vint nu dans ce monde et pour comble de chance partit comme il était venu. Le chagrin, le bonheur, l'espérance ou la crainte ensemble où tour à tour ont fait battre son cœur. Ses lèvres n'ignoraient le rire ni la plainte. Son œil fut sincère ou moqueur. Il mangeait, il buvait, il dormait, puis morose recommençait encore, dormir, boire. Et manger, et chaque jour c'était toujours la même chose, pour changer. Il fit le bien, il vit que c'était des chimères, alors il fit le mal le laissa sans remords. Il avait des amis, amitiés éphémères, des ennemis, mais ils sont morts. Il aima. Son amour d'une autre fut suivi, et de plusieurs. Surtout, le dégoût vint s'asseoir, et cet homme a passé, comme passe la vie, entrez, sortez, et puis bonsoir. Voilà.
C'est magnifique.
Oui.
Et alors, je vous garantis, chers auditeurs, que Francis Lalanne n'était pas en train de lire le livre. Vous l'avez vraiment dans la tête. C'est un long poème, en plus.
C'est
le privilège
ni
des chanteurs.
Ni prévenu, d'ailleurs.
Ni prévenu.
Mais vous pouvez faire ça toute la soirée.
C'est le privilège des chanteurs, ça, d'avoir quand même tous ces textes dans la tête. Toutes vos chansons, vous les connaissez par cœur ?
Non.
D'accord.
Non, en fait, je dois régulièrement réapprendre mes chansons.
Okay.
Non, mais j'ai plus de facilité à retenir l'œuvre des autres que la mienne. Et je pense savoir pourquoi aujourd'hui, avec le temps. C'est parce que finalement, j'ai tellement de mal à écrire mes textes, que ce soit des poèmes ou des chansons, ou quels qu'ils soient, que je pense que lorsqu'ils sont terminés, lorsque j'estime qu'ils sont terminés, parce que ce n'est pas toujours le cas, je pense que des fois, j'ai même publié des choses qui, avec le recul, ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, que je corrige, hein, je corrige en permanence. Quand je sors un livre, par exemple, je continue à le retoucher pendant que je le dédicace
à le
lecteur. Et
le fait de changer un mot pour un autre pendant la construction du texte fait que, en fait, dans votre tête, tout se mélange ensuite.
C'est-à-dire que le travail et la difficulté que j'ai à écrire, finalement, mes textes, le fait qu'en permanence, je retouche en permanence tout le temps ce que j'écris, fait que, oui, j'ai une sorte de petit rejet. qui fait que finalement c'est plus difficile pour moi de garder la mémoire de tout ce stock que j'ai donné finalement, que j'ai livré à l'autre. J'ai vraiment la sensation d'avoir fait ça pour l'autre et pas pour moi, alors que finalement les œuvres des autres, j'ai la sensation qu'ils les ont faites pour moi. Donc finalement je garde le cadeau que je reçois, mais je ne garde pas le cadeau que je donne.
On est à la librairie Gibert, oui. Donc boulevard Saint-Michel, et il se trouve qu'on est arrivé à un endroit très particulier de cette librairie. Alors, qui vend des livres neufs, mais il y a tout un rayon avec des livres anciens, des vieilles éditions, avec soit des autographes, des dédicaces, ou simplement des vieilles éditions illustrées de Françoise Sagan, de Claude Lévi-Strauss. Tout ça pour vous demander, est-ce que vous êtes sensible à l'objet livre en lui-même ? Est-ce que vous aimez que le livre soit beau, qu'il ait vécu, etc.
Oui. Il y a des livres même, je vais vous dire une chose étrange, mais très étrange. Il y a des livres que j'achète dans une version moderne pour pouvoir les ouvrir, les fermer, souligner des phrases, etc. Et puis j'achète les mêmes dans leur version ancienne. Et souvent, quand je le fais, par exemple comme ce livre-ci, les pages ne sont pas déchirées à l'intérieur, ne sont pas découpées. Vous savez à l'époque, il fallait prendre un coupe-papier pour
couper soi-même
pour
les pages,
libérer les pages qui étaient comme ça finalement reliées entre elles. Hein. Eh bien, je garde ces livres dont je connais le contenu. Hein. Et je ne les ouvre pas toujours. Je ne coupe pas le papier toujours. Je le fais quand je n'ai pas le livre moderne. Hein. Mais je les caresse. En fait, tout à l'heure, quand vous me disiez dans votre bibliothèque mentale, j'ai compris ce que vous faites avec vos livres. Mais quand vous avez vos livres autour de vous, que faites-vous ? Eh bien, souvent, comme je les connais, je les ouvre un peu. Je vais chercher un mot comme pour la première fois, pour le plaisir de retrouver un mot et pas de trouver un mot dans un livre. Mais je les caresse, j'aime toucher les livres. J'aime
je suis sûr que vous
l'odeur,
aimez les sentir, voilà.
Oui, le parfum des livres, le toucher des livres, le sentir ce papier imprimé. D'ailleurs, presque dommage qu'on puisse pas avoir accès à certains ouvrages très très anciens quand on n'est pas, quand on est incuidable, quand on n'est pas de la profession qui peut les approcher, les toucher. Vous savez, ces incunables ou ces ouvrages très anciens, oui. J'aimerais tellement pouvoir parfois en toucher un. Il y a quelque chose de tactile dans la transmission du verbe par le livre qui disparaît, bien sûr, avec le numérique, tout ça, mais
qui se transmet physiquement.
Essentiel. Oui, oui.
Alors, vous nous avez amené des livres. Quand même, auxquels vous tenez particulièrement.
On les a trouvés
dans la librairie, mais oui. C'est ceux que vous avez choisis.
Ceux que j'ai choisis, mais j'en ai amené aussi avec moi. Hein.
Alors, ils sont là. George Orwell, 1984.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi 1984 ?
Parce que c'est aussi, ça nous amène à parler de la société d'aujourd'hui et de ce qu'on fait des mots, justement. Il y a justement tout ce que... Non, je ne sais pas quel sinologue disait que tout le XXe siècle était contenu dans l'œuvre de Kafka et de d'Orwell. Bon, je ne suis pas pour les superlatifs et les exagérations, mais c'est vrai que quand on lit Kafka et Orwell, on sait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le XXe siècle.
Et particulièrement sur son côté sombre.
Oui, et je crois que ça peut même être adapté au XXIe, parce que le XXIe, finalement, il subit les conséquences des dérives du XXe, et notamment sur la dérive sociale et politique, qui est éminemment liée à l'usage des mots. Ce que cette novlangue de 84, c'est on la parle aujourd'hui. Cette façon de globaliser la signification des mots pour finalement leur enlever leur signification réelle et particulière. La façon dont aujourd'hui on parle de la démocratie, quoi, on n'utilise plus les mots pour ce qu'ils veulent dire, mais pour ce qu'on veut leur faire dire. Et ce qu'il appelle the blanket words. Ces mots couverture, ces mots qui couvrent le sens des mots pour pouvoir manipuler le langage. Nous sommes dans cette société-là qui vide les consciences ainsi. Il faut lire ce livre pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un livre qui est connu, mais finalement pas si connu que ça. Quand j'en parle avec des jeunes et des très jeunes, c'est pas là qu'ils vont chercher la vérité. Et je ne dis pas que la vérité n'est que dans ce genre de livre, mais il faut pas oublier ce genre de livre. Ce sont des livres essentiels parce que ce sont des auteurs essentiels.
Mais il n'y a pas eu d'injustice pour 1984, parce que même si tout le monde ne l'a pas lu, beaucoup, beaucoup de gens connaissent ce titre. Et voit à peu près le symbole qu'il représente. C'est déjà énorme pour un livre, cette postérité-là.
Oui, c'est vrai que on va citer Big Brother, on va citer... Orwell, c'est un homme qui, contrairement à ce qu'on pense, qui est dans une vision du concret. C'est-à-dire que cette sensation de ce livre, qui est une sensation abstraite, c'est une sensation qui nous dit que dans ce livre, on nous dit quelque chose qui nous concerne directement. Et on le sait, en fait. Mais je pense que c'est encore mieux que d'aller feuilleter ce livre et s'attarder sur ce qui est dit. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est, à un moment donné, on se dit, non, mais Orwell nous a dit que... Mais on ne va pas forcément chercher ce qu'il nous a dit. Et ça, c'est ça qui est important. Je pense que justement, c'est lorsqu'on veut faire du langage un outil de la raison, et pas du cœur, non pas de l'émotion, vous voyez, pas du QE, mais du QI, vous voyez, et bien c'est quand on fait ça, finalement, qu'on va créer une absence d'interprétation plurielle qui va appauvrir la langue, donc appauvrir la conscience. Et en revanche, lorsque on veut changer le sens des mots, là, on s'empare de la langue et on la transforme en outil de domination. Je vous donne un exemple. Quand vous dites, par exemple, un plan social à la place d'un licenciement, qu'est-ce que vous voulez me vendre ? Quand vous dites un technicien de surface à la place d'un balayeur, qu'est-ce que vous voulez me vendre ? C'est ça la novlangue. C'est aussi, c'est non seulement globaliser le sens des mots pour leur enlever leur puissance, mais c'est aussi changer le sens des mots pour cacher une injustice ou cacher une infraction du pouvoir, un abus de pouvoir. Bref, vous savez, en ce moment, jamais le langage des entreprises n'a été aussi lénifiant. Et il n'y a jamais eu autant de suicides dans les entreprises. Voilà. La langue est un outil qui permet de lutter contre les abus de prérogatives du pouvoir qui s'impose. Et c'est aussi un moyen de transformer les gens en esclaves. Je conseille la lecture d'Orwell, de manière générale, et en tout particulier de ce livre, pour que justement les gens réalisent qu'il ne faut pas laisser, et que c'est à eux qu'il appartient de ne pas laisser le pouvoir s'imposer par le langage.
Je regarde votre sélection là, et je sais qu'il y a un homme dont vous voulez vraiment nous parler, c'est Émile Verhaeren.
Émile Verhaeren, oui.
Verhaeren, enfin, qui est donc un poète.
Vous l'aviez mieux prononcé que moi, peut-être que je l'ai prononcé à la française.
Je ne sais pas, hein, je n'ai pas d'expertise.
Oui, c'est du flamand. Et je crois qu'on doit dire Verhaeren, un truc comme ça. C'est un des plus grands poètes francophones.
Qu'est-ce qui fait un grand poète ? Qu'est-ce qui fait qu'il vous touche, vous, particulièrement ? Pourquoi lui ?
La langue. Si je vous disais quelques vers, vous l'entendriez. Il y a un poème de lui que j'adore, c'est Le Vent. L'allitération heureuse, parce qu'il y a des allitérations cacophoniques et malheureuses.
Lourdingue.
Un peu lourdingue. Ouais. Mais là, c'est quand je vous dis, par exemple, le vent sauvage de novembre, on entend le vent qui claque sur les volets. Le vent sauvage de novembre, tous ces V qui arrivent dans une séquence inégale, mais en même temps qui insiste, comme ça, comme quand les volets claquent, comme quand les rafales s'étalent. Comme ça. Le vent sauvage de novembre qui se déchire et se démembre. C'est-à-dire l'usage des consonnes, la façon dont les voyelles et les consonnes s'entrechoquent, mais de manière allitérative, sans être une sorte de citation cacophonique qui veut imiter un son, voyez le. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? Ah oui, d'accord, le serpent est censé faire « sss », alors on va mettre des « s » partout. Non, là, c'est pas parce que le vent contient le mot « v » que le vent fait des « v » quand le vent souffle, mais de remettre du « v » dans les mots qui parlent du vent qui souffle, là, tout d'un coup, ça le fait vibrer comme il vibre, et on ressent le vent en lisant ce poème. Vous voyez ? Et ça, c'est Verhaeren. Voilà.
On va devoir quitter la librairie bientôt, mais je voulais quand même absolument parler d'une autre de vos sélections, plus étonnante, c'est Les Aventures de Tintin, Le Sceptre d'Ottokar. Pourquoi vous avez choisi Tintin et celui-ci en particulier ?
Alors, j'ai choisi Tintin parce que je suis tintinophile.
Ah, vous avez été collectionneur et tout ?
Oui.
D'accord.
Oui. Tout ça est avec mes livres dans des cartons. Mais un jour, si je décide de redevenir sédentaire, tout ça viendra dans ma bibliothèque que vous visiterez, j'espère.
Avec plaisir.
Tintin et le Sceptre d'Ottokar, c'est le premier livre dont je peux dire que je l'ai lu. Voilà. D'abord, ma mère me lisait Les Aventures de Tintin pour m'endormir. Et puis un jour, j'ai voulu regarder ce que ma mère lisait. Parce que je ne voyais que les images au début. Elle lisait. Et puis j'ai voulu lire. Et très vite, j'ai appris à lire en lisant Tintin. Voilà pourquoi j'ai choisi et Tintin et Le Sceptre d'Ottokar.
Merci beaucoup, Francis Lalanne, pour cette balade poétique dans vos livres. Merci beaucoup.
Europe 1. De retour en studio, et je rappelle la sortie du double CD best-of pour les 40 ans de carrière de Francis Lalanne. Et merci à Olivier Duval pour la prise de son. Restez là, Pauline Carayon va tenter de vous donner envie de lire deux livres. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre avec Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre, pour non pas un, mais deux conseils de lecture. Bonjour Pauline.
Bonjour Nicolas.
Bon, bah merci beaucoup d'être venu. Vous êtes venu en plus avec mon héros, Jean Echenoz. C'est le premier livre dont vous vouliez nous parler.
Oui, je voulais vous parler de Vie de Gérard Fulmar, qui est un livre mais extrêmement drôle. Aux éditions de Minuit. Alors, Vie de Gérard Fulmar, ça raconte forcément la vie de Fulmar. Ce bon vieux Fulmar qui mène une existence somme toute paisible. Mais son existence va basculer en raison de plusieurs épiphénomènes. Le premier, c'est le reste d'un satellite russe qui vient se crasher dans le supermarché au-dessus duquel vit son propriétaire.
Ça arrive.
Mais là, il se dit, bon, chouette, je vais pouvoir économiser au moins quelques mois de loyer. Parce qu'il est au chômage, ce Fulmar. On sait qu'il a été steward, mais il a été viré pour faute grave. Et à la suite de son licenciement, il est obligé de consulter un psychiatre, Jean-François Bardot. Et Fulmar fulmine, parce que c'est, bah, c'est l'humour hein, de Jean Echenoz. Fulmar fulmine, il se dit, mais il faut que je trouve quelque chose pour me faire de l'argent. Et il décide de créer le cabinet Fulmar Assistance, une espèce de cabinet de détective privé à la Deluc. Mais bon, force est de constater que malgré des petites annonces passées dans le journal du coin, personne ne toque à sa porte, excepté un homme un peu louche qui lui demande de retrouver sa femme. Et Fulmar, donc, ne fout rien de ses journées et regarde souvent donc, la téloche. Et là, breaking news, il tombe sur une info donc, de la première importance, le kidnapping de la secrétaire générale du parti la Fédération Populaire Indépendante. Et Le Tourneur vient d'être kidnappé. Et tout s'enchaîne, bizarrement, et Fulmar va se retrouver pris dans une machine diabolique, enfin, c'est un peu le bal des ratés, pour finalement devoir assassiner le président de ce parti, donc du mari de Nicole Le Tourneur. Mais je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment le bal des ratés. Les bas instincts s'accordent, c'est extrêmement drôle. C'est, bien sûr, je nous ai le sens de la formule. Je me suis marrée en lisant ce bouquin, enfin, c'est absolument délicieux, divin. Je recommande à mort.
C'est le meilleur Jean Echenoz, et il y a le style Echenoz aussi.
Le style Echenoz, mais c'est que des formules truculentes. L'humour, je veux dire, il se fout de la gueule de tout le monde. On a l'impression que c'est un vieil oncle un peu malicieux qui nous raconterait un conte sordide, à vrai dire. Mais bon, avec de l'humour.
Bon, voilà. Et vous avez un deuxième livre à nous proposer.
Yes, j'ai un deuxième bouquin. Avec un concept génial, en effet. Je vais vous parler donc d'un livre qui a été publié aux éditions Stock, dans la collection Ma nuit au musée. Et donc, à chaque fois, il s'agit d'un auteur qui raconte donc une nuit passée au musée.
Et qui va vraiment passer
toute une nuit dans un musée. Il y a eu, par exemple, Christophe Nodibio avec Adèle Abdessemed, au musée Picasso. Et là, il s'agit en l'occurrence de Léonore de Recondo, auteur de Manifesto Amour. Voilà, et qui donc, elle, a passé sa nuit au musée d'El Greco, à Tolède. Voilà, le livre s'appelle « La leçon de ténèbres ». Donc, elle raconte son arrivée à Tolède, un peu ultra-romanesque, la chaleur, les gens, ça grouille de monde. L'Espagne, elle connaît bien, puisqu'elle a vécu dans le Pays Basque. Son père aussi était espagnol, était basque. Et elle a des parents artistes, et ses parents étaient artistes. Donc, en fait, pour raconter sa nuit au musée, si vous voulez, elle va invoquer le Greco pour avoir une sorte de conversation imaginaire, sulfureuse avec lui. Elle va elle aussi puiser dans sa mémoire tout le travail qu'elle entretient avec la création, parce que Léonore de Recondo est violoniste. Et donc,
Elle a amené son violon aussi.
Elle se dit peut-être qu'en y jouant, elle va provoquer des vibrations métaphysiques qui vont lui ramener l'esprit d'El Greco. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc elle a fait des recherches sur le Greco, sur ce peintre donc originaire de Crète, qui est parti s'installer à Tolède à l'âge de 30 ans à peu près. Et elle essaie de comprendre sa vie, ses amours, ses chagrins, ses peines. Et elle fait un drôle de parallélisme entre sa vie à lui et sa vie à elle. Et c'est absolument exquis, c'est ultra lyrique, c'est une écriture charnelle. Non, je ne résiste pas à l'envie de vous citer une invocation donc, de Léonore de Recondo, Dominikos, mi amor. Y a-t-il une technique de l'émerveillement? Voilà, donc on s'éclate pas mal dans ce bouquin. C'est une traversée artistique, littéraire et très joyeuse.
On n'a pas besoin de connaître toute l'œuvre du Gréco pour apprécier ce livre en plus.
Non, 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 il suffit d'aller sur Internet.
Merci beaucoup pour Pauline Carayon. Et je rappelle donc La vie de Gérard Fulmar de Jean Echenoz et La leçon de ténèbres de Léonore de Recondo. Merci beaucoup Pauline.
Ben merci Nicolas.
On change de rayon dans un instant. On retrouve Victor Dolande pour la littérature jeunesse.
Il était une fois.
Dernier chapitre de La Voix est libre et on retrouve Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et comme chaque semaine, vous avez un conseil littérature jeunesse. Aujourd'hui, c'est un album intitulé « Les esprits de l'escalier » de Clémentine Beauvais et Gérald Guerlet.
Oui, alors là, c'est l'histoire d'un fantôme plutôt charmant, au demeurant, bien habillé, très chic même. Il est mort depuis 118 ans et son passe-temps favori, c'est hanter les escaliers d'un vieil immeuble parisien. Il a tout vu en plus d'un siècle d'errance, des dizaines de familles, des baisers émouvants, des disputes déchirantes, des naissances. Bref, il connaît son immeuble sur les bouts des doigts. Rien ou presque ne semble l'étonner jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ne meure. Une femme, insaisissable ou presque, qui virevolte sur les toits, profite de sa nouvelle vie à chaque instant.
C'est un fantôme ?
Oui.
Et donc ils vont se rencontrer ?
Oui, oui, oui. Mais alors à chaque fois, il n'a pas vraiment la bonne répartie. Il veut lui dire quelque chose, mais il ne trouve pas sur le moment. Et quelques minutes plus tard, il lui vient une bonne réplique. Trop tard à chaque fois.
Il a l'esprit d'escalier.
Exactement. Ah, ça, j'ai pu joindre Clémentine Beauvais, l'autrice de cet album. Elle m'a expliqué justement comment était née l'idée de ce livre.
Gérald Guerlet, l'illustrateur, et moi, on s'est rencontrés dans un escalier. Et on voulait faire un album ensemble, etc. Puis donc je réfléchissais, puis je pensais à un escalier, et ça m'a fait penser à l'expression, donc avoir l'esprit de l'escalier. Après, je me suis dit, mais ça serait quoi un esprit de l'escalier? Ça pourrait être un fantôme qui vit dans un escalier. Mais quel type d'escalier? Ça serait cool si c'était un super escalier de beaux bâtiments haussmanniens parisiens. Visuellement, ça serait sympa. Et ensuite, voilà, j'ai construit toute l'histoire à partir de là. Mais c'est vraiment venu de ce petit jeu de mots avec des esprits dans un escalier, quoi.
Donc vous l'avez compris, elle a vraiment joué sur cet esprit d'escalier, mais dans l'album il est question de cet esprit au sens premier de l'expression, comme je vous le disais.
À partir de quel âge peut-on lire cet album ?
Alors on peut lire sans problème à partir de 6-7 ans, c'est particulièrement bien écrit. Clémentine Beauvais a souvent de très très jolies formules que vous découvrirez, et l'illustrateur Gérald Guerlet raconte aussi de très belles choses avec ses dessins. C'est notamment très intéressant de voir comment il a mis en scène les fantômes à côté des vivants.
Et on rappelle le titre, Les esprits de l'escalier de Clémentine Beauvais, et illustré par Gérald Guerlet, c'est chez Sarbacane. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation, et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.